Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Libre Propos. Christophe Jubien, heureux de vous accueillir. Libre Propos, c'est l'émission de Radio Rancel qui vous permet d'entendre chaque semaine la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christori, sur des sujets de société, sur des sujets d'église. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Christophe, heureux de vous retrouver.
Merci, ainsi que cette nos joie partagée. Et nous avons du pain sur la planche aujourd'hui, parce que finalement, il y a des choses qui
Allons-y. Qui
se passent. Allons-y. Moi, je me suis beaucoup inspiré cette semaine de votre message fraternel que les auditeurs peuvent évidemment lire également sur le site du diocèse de Chartres. Alors, dans votre avant-dernier message fraternel, vous revenez sur la forme ordinaire du rite latin de la messe et vous dites que nous sommes entrés dans le temps liturgique ordinaire. De quoi s'agit-il exactement ?
En fait, l'année liturgique qui commence avec l'Avent, donc vers le 1er décembre, est rythmée par des temps forts, donc que sont le temps de l'Avent, avant Noël, le temps du Carême, donc avant Pâques, le temps pascal qui suit Pâques, et le reste s'appelle le temps ordinaire, mais qui n'est ordinaire en rien, au sens que c'est un temps où nous avançons à l'écoute de l'Évangile, à l'écoute des textes bibliques, dans la prière, pour approfondir la vie spirituelle, donc l'union à Dieu par Jésus, dans l'Esprit Saint. Donc c'est un temps qui est magnifique et qui déploie toutes ses grâces quand on sait le vivre jour après jour à l'écoute de ces liturgies particulièrement.
Oui. Alors vous revenez donc sur la forme ordinaire du rite latin de la messe. Alors les paroissiens ne le savent peut-être pas, mais ce rite est le fruit d'un travail de recherche considérable. Est-ce que vous pouvez nous éclairer à ce sujet ? Comment ça se fait en fait ? Ça se construit ?
C'est dans l'Église catholique, il y a beaucoup de rites. Alors il y a ce qu'on appelle le rite latin qui lui-même a deux formes, la forme ordinaire et la forme extraordinaire. La forme extraordinaire, c'est la forme qui a commencé avec le pape Saint Pie V, qui a été jusqu'au Concile Vatican II, la forme traditionnelle en latin de l'Eucharistie de la messe. Mais il s'avère que le Concile Vatican II, donc entre 62 et 65, a voulu réformer la liturgie, notamment en puisant dans toute la richesse des textes anciens qu'on redécouvrait au XXe siècle. Vous savez qu'il y a beaucoup de manuscrits, il y en a encore beaucoup, qui sont en grec ou en latin, qui racontent comment les gens priaient dans les premiers siècles, qui n'ont pas été traduits, ou qu'on retrouve, parce qu'ils ont été mis dans des bibliothèques du monde entier, parfois classés de manière un peu aléatoire entre d'autres écrits, même de philosophie ou de théologie. Quand on les retrouve, on redécouvre ces prières, et la réforme liturgique au XXe siècle a permis de travailler sur ces sources. Et donc le nouveau missel, qui reprend des traditions très anciennes, s'est enrichi de beaucoup de prières, par exemple, et a élargi aussi les textes bibliques lus aux messes. Donc on a, avec la forme ordinaire, qui est la forme actuelle de la liturgie pour l'ensemble de l'Église, même si la forme extraordinaire peut être célébrée, on a une très grande richesse de textes. Et en plus, le Concile Vatican II, qui a confirmé que le latin reste la langue officielle de la liturgie, a permis qu'on célèbre en langue vernaculaire, donc en langue locale, la liturgie eucharistique. Ce qui fait que c'est plus accessible aux gens. Pensez à des gens dans des pays très lointains, qui sont très loin du latin, qui ont des langues dans d'autres racines, d'autres cultures, sont assez contents d'avoir une langue compréhensible.
Alors, si je vous comprends bien, c'est que finalement, contrairement peut-être à ce que disent les traditionalistes, c'est que l'actuel rite puise à des sources très anciennes, finalement.
Mais complètement. C'est la richesse d'une tradition qui, depuis 2000 ans, à la fois garde son acquis lointain et s'enrichit, parce que l'Esprit Saint, comme dit Jésus, enseignera toutes choses. Donc, il y a à la fois une continuité, une tradition et une nouveauté pour le temps présent.
Oui. Alors, vous invitez aussi les catholiques du diocèse à fréquenter assidûment les Saintes Écritures, à les ruminer, à les méditer, et vous rappelez cette injonction de Saint Jérôme, qui est très sévère, enfin en tout cas qui est très claire. L'ignorance des Écritures, c'est l'ignorance du Christ.
Oui, alors c'est sûr que la Bible a été rendue accessible plus récemment qu'avant. Il y avait aussi dans le passé beaucoup de livres de piété, donc qui étaient bien utiles, qu'on peut toujours reprendre. Mais depuis le Concile, il y a une très grosse insistance sur la lecture biblique, les groupes, les cercles d'études de lecture biblique pour les laïcs, avec notamment des traductions qui ont été refaites. Je pense à la traduction œcuménique de la Bible, je pense aussi à la traduction de la Bible de Jérusalem, qui a été enrichie, et d'autres versions, comme la traduction liturgique de la Bible. Donc c'est accessible. Les petits livrets, maintenant, qui sont mensuels, permettent à beaucoup de fidèles de lire aussi la parole de Dieu. Je pense que c'est un beau mouvement, et on ne peut pas ignorer l'Écriture quand on est chrétien.
Oui. Autrefois, on était timide par rapport. Je me souviens que mon père, qui allait à la messe tous les dimanches, qui pria certainement dans sa chambre, avait du mal, finalement, à ouvrir l'Évangile.
Oui, on l'ouvrait moins. Bien qu'une sainte Thérèse de l'Enfant Jésus connaissait très bien l'Écriture. Oui. Donc, il y avait quand même des traditions où on la lisait, mais c'était peut-être moins accessible au commun des chrétiens.
Oui. Notre vie peut sembler ordinaire, dites-vous, mais il ne faut pas s'y résigner. Ajouter de la vie à chaque journée, c'est notre vocation, dites-vous. C'est une belle expression, ajouter de la vie à chaque journée.
Comment on fait ? C'est une question. Moi, j'aime beaucoup Sainte Thérèse de Calcutta. Je crois qu'il demande vraiment qu'on sourie à la vie. Pourtant, elle portait un poids très difficile, une grande souffrance personnelle et une œuvre très lourde à porter. Et elle passait son temps à dire, mais il faut sourire. Quand on sourit à la vie, on l'accueille déjà. On ne peut pas changer la vie. Vous savez, la vie n'est pas ce qu'elle devrait être. La vie est ce qu'elle est. Donc, on a ce qui est là. Et dans ce qu'elle est aujourd'hui, je peux trouver un espace pour vivre pleinement, peut-être faire du sport, peut-être me détendre, peut-être découvrir des éléments de la culture qui vont m'enrichir, avoir des relations nouvelles, appeler des amis, enfin, et prier, bien sûr. On peut faire beaucoup de choses quand on prend au sérieux le cadeau qu'est la journée qui s'ouvre à nous.
Ouais. L'acceptation de ce qui est, c'est important, c'est un préalable à la vie spirituelle.
C'est-à-dire que si on se met à vivre avec un rêve que ça devrait être autrement, on ne vit plus.
Oui. Notre vie ne nous appartient pas, nous la recevons de Dieu. Cette intime conviction qui est celle de l'homme de foi, qu'est-ce qu'elle change au juste dans l'appréhension que nous avons de la vie ?
Oui, la vie, elle est pour moi donnée, c'est-à-dire que... Dieu est le maître de la vie. Dieu est celui qui donne la vie. Dieu a permis que par mes parents, je vienne au monde. Statistiquement, je n'avais quasiment aucune chance de naître. Et voilà que je suis là. Donc oui, c'est un don. Et ensuite, encore une fois, chaque journée que je vis peut être vue comme un don et être vécue dans l'action de grâce. Merci Seigneur pour cette journée. Elle a été belle. Elle a été moins facile, d'accord, mais elle a quand même existé. Et je t'en rends grâce.
Voilà. Je crois qu'on en vient à l'actualité. Dimanche, s'est déroulée la marche à Paris, une marche pour la vie. C'est un mouvement que vous soutenez ardemment.
Oui, c'est un mouvement qui chaque année fait une grande marche, qui est très pacifique, mais qui veut mettre en avant l'idée que la vie est précieuse, la vie depuis sa conception dans le sein maternel jusqu'à sa fin naturelle. Il y a souvent beaucoup de monde. En général, c'est 20 000, 30 000 personnes qui marchent ensemble. Les médias, bien sûr, n'en parlent pas. J'ai vu le journal de la télévision sur France 2 du même soir, donc dimanche soir, il n'y avait pas un seul écho de ça. Donc on a vraiment l'impression que c'est occulté, mais ça existe. Et des gens vraiment se battent pour que la vie soit préservée, soit magnifiée, soit reconnue digne pour toute personne.
Alors, les députés ont proposé que soit élargi l'accès à l'avortement, introduisant dans la loi une clause, si j'ose dire, de détresse psychosociale. Alors, cette détresse, elle existe, hein, même elle progresse, il y a longtemps que les travailleurs sociaux tirent la sonnette d'alarme. Alors, ma question est la suivante. Existe-t-il une alternative crédible à l'élargissement de l'accès à l'avortement ? Et quelle est-elle ?
Oui, il y a sûrement des drames qui sont énormes pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de situations qui sont humainement très compliquées à vivre. Maintenant, encore une fois, si on fait les pompiers, on cherche comme solution d'éteindre le feu. Alors, si éteindre le feu, c'est avorter l'enfant qui est sain dans le sein maternel d'une jeune fille, d'une femme, etc., alors il y a quelle solution pour moi, ça m'attriste au sens que comment peut-on réfléchir en amont la vie des gens, les aider, les accompagner pour qu'ils n'arrivent pas à cette détresse psychosociale. Et peut-être avoir des lieux d'accueil, des maisons qui s'ouvrent, où des jeunes femmes pourront être accompagnées, peut-être mises à l'abri d'un compagnon violent. Enfin, on est quand même devant un manque de moyens en amont, quoi. Donc, je pense que ce n'est pas la solution, même si la détresse existe, qu'elle devrait être réfléchie avec tous les acteurs du monde social, associatif et religieux, avec le choix de dire « nous n'irons pas à la mort comme solution, nous défendrons la vie, mais nous prendrons d'autres chemins pour aider ces gens ». C'est difficile, très bien, mais ce n'est pas impossible.
Alors, sur cette question, votre ton est résolument offensif. Je cite encore donc cet extrait de votre avant-dernier message fraternel. « Le planning familial est une œuvre de déshumanisation, une organisation à laquelle nous ne pouvons donner aucune caution. » C'est sans ambiguïté à tout le monde.
Oui, parce que c'est très connu, c'est financé par notre argent, par les conseils départementaux, par l'ARS, par les métropoles. Au départ, ça voulait proposer une maternité heureuse, mais quand je regarde les grandes actions du planning, en plus de l'information, c'est contraception, avortement, euthanasie. Donc je ne vois pas très bien où est dedans la maternité heureuse. Vous savez, ces grandes structures mondiales aujourd'hui ont des fondateurs qui, quelque part, mettent leur marque. Aux États-Unis, c'est Margaret Sanger qui défend carrément un eugénisme qui dit qu'il faut améliorer l'humanité et éviter les êtres indésirables. Et je peux citer une phrase qui est terrible, mais je vais la citer quand même. Elle dit « Toutes les misères de ce monde sont imputables au fait que l'on permet aux irresponsables, ignorants, illettrés et pauvres de se reproduire sans que nous ayons la moindre maîtrise de leur fécondité. Ouais. » Mais cette phrase-là...
Ça fait penser à des choses qu'on a pu entendre lointain passé.
C'est abominable. Et derrière, en France, on a Pierre Simon, qui est un médecin, médecin maçonnique, qui en 1960 fonde le planning familial français et fonde aussi l'ADMD, qui est l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, donc pro-euthanasie. Et cet homme qui a écrit un livre qui s'appelle « De la vie avant toute chose », lutte contre la prolifération de ce qu'il appelle les tares génétiques. Et il dit la vie est un matériau, au fond, qui doit être géré par la société et surtout pas par les parents. Hein? Et il dit même cette phrase, alors je vais le citer encore une fois, hein, pardonnez-moi, c'est un peu long les citations, mais il dit « C'est la société qui décide si l'enfant doit être engendré, s'il doit vivre ou mourir, quel est son rôle et son devenir. » Autrement dit, la société et la science ont tout pouvoir pour décider, ni Dieu ni maître. En général, ces gens s'opposent absolument à la religion, à Dieu et au christianisme. Et ils veulent éliminer toute forme de handicap, favorisant même, dira Pierre Simon, l'euthanasie du nourrisson. Ça veut dire qu'un enfant naît, et on peut encore le supprimer parce qu'il ne serait pas conforme aux normes que l'on dicterait pour une plus grande humanité. Moi, je suis inquiet parce que, je veux dire, le planning, il a pignon sur rue, il est financé, il a beaucoup de moyens, il va dans les écoles, il promeut la contraception, l'avortement, l'euthanasie. En tant que catholique, je ne peux pas soutenir cela. Je pense qu'il y a d'autres chemins pour expliquer à des jeunes la beauté de la sexualité, la beauté de l'enfant à naître, sa fragilité, sa pauvreté. Je pense que l'Église défend aussi le petit, le pauvre, la personne handicapée, la personne qui est dépendante. Si on ne fait pas ça, on va déshumaniser la société. Et je m'attends au pire à ce moment-là. Je pense que les gens seront profondément malheureux parce que la joie est aussi dans l'accueil de l'autre tel qu'il est, avec ses pauvretés, avec ses capacités aussi.
Et puis rappelons que c'est en Union soviétique et dans l'Allemagne nazie que l'enfant était la propriété de la nation et non pas de la famille. Hein.
Voilà. On a vu, les Khmers Rouges et autres, oui, mettaient la main sur les enfants jusqu'à leur faire dénoncer leurs propres parents. Donc c'est dramatique.
Donc gare. Merci beaucoup, Monseigneur. On arrive au terme de cette émission. Je voulais qu'on parle de Sainte Marguerite Bourgeois. On se la garde pour la semaine prochaine, si vous voulez bien.
Une belle figure de femme, oui.
On se retrouve la semaine prochaine donc dans Libre Propos, une émission que vous pouvez réécouter bien évidemment sur le site de Radio Rentiel, www.radioranciel.fr. Merci à Simon en régie technique et je vous dis à la semaine prochaine.